C'est pas parce qu'on fait quelque chose d'environnemental et social qu'on doit être forcément une association. Les associations ont pallié pendant très longtemps au manque dans notre système, et c'est très bien. Mais aujourd'hui, on a les moyens aussi de pouvoir créer une économie, une réelle économie, autour des sujets environnementaux et sociaux. Et il n'y a pas à rougir de créer une économie autour de ça, c'est comme ça que ça devrait fonctionner, pour que ce soit viable dans le temps.
Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire.
Je suis Brieux Saffray.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design Circulab. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Alors bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Aurélie Dereau. Bonjour Aurélie.
Bonjour Justine.
Alors Aurélie, aujourd'hui on est là pour parler de poules, pour parler de biodéchets et pour parler du cocotarium.
Que du bonheur.
Que du bonheur, exactement. Donc ce que je te propose, avant qu'on rentre dans ces détails, c'est de commencer par nous dire qui tu es comment t'en es venue à travailler sur le sujet des poules.
Oula, vaste question. Moi c'est Aurélie Dereau et je suis de formation architecte d'intérieur et designer. J'ai commencé ce métier avec l'ambition de vouloir changer les modes de vie de demain. J'étais passionnée par les phénomènes sociologiques, la façon de vivre des gens et par l'impact du mobilier et de l'architecture qui pouvait vraiment modifier nos façons de vivre. Typiquement, quand on a commencé à ouvrir les cuisines à l'américaine, dites à l'américaine, la place de la femme a été différente et d'un seul coup, la femme, lorsqu'elle cuisinait, elle faisait partie intégrante du repas, enfin de la soirée.
Et du moment.
Ouais. Exactement, du moment. Et donc, c'est vraiment un exemple pour illustrer que je suis persuadée que l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on interagit, nous, en tant qu'architecte, en tant que designer, on a une réelle responsabilité par rapport à ça et que du coup, avec cette responsabilité-là et cette espèce de cet impact-là qu'on peut générer, il faut penser la ville de demain en intégrant toutes ces données-là, toute cette responsabilité-là, et à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour mieux construire demain. Du coup, j'ai donc passé mon diplôme. À l'époque, j'ai passé un diplôme dans ce secteur-là où je m'étais passionnée pour les plateformes pétrolières et leur réhabilitation, en prenant en compte le fait qu'il y avait toute une biodiversité sous-marine qui s'était développée au pied de ces plateformes. Et mon intérêt à moi, c'était de me dire, une fois que tout ça s'est régénéré, un écosystème s'était recréé, comment est-ce qu'on fait pour pas détruire cet écosystème en démantelant ces plateformes, mais plutôt en essayant de les mettre en valeur d'exploiter cette belle biodiversité à travers un projet de réhabilitation de plateforme. Et puis après, j'ai commencé à travailler pour gagner ma vie en bossant pour des cabinets d'architecture pendant plusieurs années. Et un jour, cette envie de transformer mes modes de vie avec un réel impact environnemental et social a été plus fort. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'entreprendre.
Et comment quelle a été la passerelle entre les plateformes pétrolières et le sujet de la biodiv? Et est-ce que, enfin, tu vois, dans toi, tes premiers boulots sur l'architecture, t'as réussi quand même à valoriser ce travail-là?
Ouais, je comprends la question. En fait, pour moi, tout est lié, même si c'est pas flagrant au premier abord. Mais l'ambition que j'avais de faire de ce métier, l'architecture intérieure, le design, où j'avais vraiment conscience que on pouvait changer les modes de vie de demain en dessinant les choses, en les concevant, m'a amené à repenser une autre manière de vivre, une manière de vivre un peu alternative à ce qu'on connaissait dans notre société classique. D'où les plateformes pétrolières avec l'envie de vivre ailleurs que sur Terre, de vivre sur mer. Enfin, il y avait un peu quelque chose d'assez utopiste à vouloir vivre hors de Terre. Je m'intéressais beaucoup à ça, avec les cités qui ont disparu, enfin les mythes autour de ces habitats-là. Mmh. Et puis petit à petit, bah, j'ai tout simplement un peu déconnecté avec ça parce que j'étais un peu rattrapée par la réalité de gagner ma vie. Et du coup, j'ai voulu bosser pour un architecte qui me faisait rêver à l'époque, qui travaillait dans les habitats d'urgence. Et en fait, c'était une expérience extrêmement intéressante parce que j'ai vu ce que je ne voulais pas faire. Et ça m'a, enfin, disons que c'était passionnant. J'ai adoré vraiment tout ça. Mais j'ai compris, en fait, là où je n'avais pas envie d'aller aussi. Ça a été très clair pour moi. J'ai vu un petit peu les travers de quand on veut développer un projet impact positif, les travers qu'on peut rencontrer et parfois le désenchantement en fait de la réalité en fait. Ouais. Et du coup j'ai continué à bosser en mettant un peu de côté mes convictions jusqu'à bosser pour l'univers du luxe. Et là en fait j'étais allée trop loin et
t'as touché ta limite.
Ouais, j'ai touché, exactement, j'ai touché ma limite et je me suis dit non, en fait là t'es en train de te perdre. Alors parallèlement, je regardais un peu les concours qui se faisaient autour de moi et un jour je suis tombée sur un concours qui était le concours Jardin-Jardin au Jardin des Tuileries à Paris qui proposait de réinventer le jardin de demain. Et moi, dès l'instant où on parle de demain, une façon de vivre de demain, que ce soit le jardin, que ce soit hors de terre, sur l'eau ou ce que tu veux, forcément tout de suite ça m'intéresse. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à ouais, une autre manière d'habiter le jardin, une autre manière de vivre le jardin. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à ces nouveaux jardins qui sont en fait des jardins ancestraux, qui sont les jardins ouvriers et les jardins partagés. J'ai commencé à m'intéresser beaucoup à ça avec le fait qu'on voit revivre, on voit revenir dans les villes ces espaces partagés de jardins cultivés, donc un retour à la nature dans les zones urbaines. Et du coup, donc ça c'était il y a quelques années en arrière. Et du coup, je me suis posé la question, mais bon, on a le végétal qui fait son grand retour, qui arrive en ville. On n'a pas encore poussé jusqu'à l'animal. Et pourtant, il y a des animaux qui ont des vertus extrêmement intéressantes, comme les moutons avec l'éco-pâturage, comme les abeilles avec leur contribution à la biodiversité. Enfin, voilà, il y a tous les insectes. Et il y a des animaux comme les poules, par exemple, qui ont des vertus aussi, puisqu'en fait, grâce à elle, on peut recycler nos déchets alimentaires et puis ça pond des œufs. Enfin voilà. Et du coup, je me suis intéressée vraiment à ce sujet et je me suis dit, je pense qu'il y a un truc à faire avec les poules. Je pense qu'il y a un truc à faire aussi avec des lieux qu'on a oubliés dans les villes. Par exemple, les kiosques à musique d'antan, qui sont vraiment des lieux emblématiques. De la vie normalement, puisque c'était des lieux où on assistait à du théâtre, à des concerts, c'était vraiment des lieux de rassemblement et de vie et de rencontre. Et en fait, c'est assez flagrant, c'est qu'en fait, ces lieux-là ne vivent plus dans nos villes. Ils sont toujours là, ils sont toujours présents, mais ils ont plus de fonction. Et c'est quand même, enfin, quand on y pense, c'est quand même assez fou de se dire que aujourd'hui, les villes qui ont bâti ces sites-là sont dénués de leur fonction. Elles n'existent plus. C'est quand même assez représentatif et symbolique de l'époque dans laquelle on vit. Et je me suis dit, il y a un truc à faire avec ces kiosques. Et en fait, je suis partie aussi de là. Je me suis dit, mais il faut repenser en fait ces lieux de vie. Il faut recréer des lieux de vie et s'inspirer de ces lieux de vie de l'époque où on avait des prétextes à se retrouver et recréer ces endroits-là. Et du coup, ouais.
Et du coup, on y arrive au cocotarium, mais peut-être ouais. Juste avant. Enfin, en fait, moi, il y a quelque chose que je trouve assez, hyper intéressant dans ce que tu dis, et j'abordais, mon frère travaille sur le sujet des kiosques et des kiosques à journaux, pareil, qui sont en évolution permanente. Et tu vois, par exemple, la mise à la transformation du kiosque en lui-même récente dans la ville de Paris, elle a beaucoup remis en cause la place du kiosquier en fait dans la ville de Paris. Et en fait les kiosquiers étaient les premiers à dire c'est plus du tout les mêmes kiosques, c'est plus la même bulle, c'est plus le même service, la même valeur. Et en fait à ce sujet-là, je pense que tu dis aussi sur l'aspect l'urbanisme et l'architecture aussi bien est un met en avant les évolutions de notre société, mais forge aussi finalement nos comportements. Et comme tu l'évoquais avec la cuisine à l'américaine, l'architecture, voilà, d'intérieur ou la conception au plus large, est un reflet, mais également un vecteur finalement de transformation, etc., quoi.
Exactement. Et pour aller chercher des gens qui l'ont pensé il y a un moment, tu prends Michel Foucault qui parlait de dans son livre, je sais plus comment il s'appelle ce livre. Attends, je crois que j'ai la référence là. Le corps utopique, les hétérotopies. En fait, il parle de la ville et il dit que aujourd'hui, on a mis toute la vie active, toute la société active au centre, au cœur des villes, et en périphérie, on a mis tout ce qui n'appartenait plus à la société, typiquement les personnes âgées dans les maisons de retraite qui sont à proximité des cimetières, en périphérie des villes. Il y a un côté un peu... moi, j'extrapole hein, j'ai lu dans mon bouquin, mais c'est assez... je trouve que c'est une image hyper frappante et hyper forte de la manière dont on dérive petit à petit sur notre conception des villes et cette notion de périphérie qui, déjà dans le mot, c'est autour d'eux et ce n'est pas dedans, en fait.
C'est pas la cité, c'est autour de la cité.
Exactement. Ouais. On exclut déjà rien que par le vocabulaire ce que ça veut dire. Et en fait, ça veut bien dire qu'il y a des gens qui sont à l'intérieur de la cité, qui appartiennent exactement à la cité et qui participent aux différentes fonctionnalités de la cité. Et puis, il y a des personnes qu'on considère ne plus en faire partie, être en dehors de cette cité et du coup d'être périphérique, comme des satellites qui gravitent autour. Enfin, il y a un côté presque parasitaire, quoi.
Pour revenir du coup et pour boucler, il n'y a pas que les personnes âgées qu'on met en périphérie, mais il y a aussi tout ce qui est déchets et tout ce qui est biodéchets notamment. Mais c'est pour ça qu'on a les déchetteries, les centres de tri, etc., qui sont en périphérie et en fait parce que ça ne fait aujourd'hui pas partie de la vie de la cité et on ne fait pas avec les déchets mais par contre on souhaite le plus possible les éloigner de la vie en fait.
Exactement, ce qu'on ne voit pas n'existe pas quoi.
Et toi comment t'as donc ramené dans la ville aussi bien ces lieux d'échange et de partage comme et c'était la fonction du kiosque à musique et aussi comment tu ramènes aussi dans la ville cette question des déchets notamment des biodéchets.
Avec le Cocotarium. Le Cocotarium en soi, ça paraît innovant et en même temps c'est vieux comme le monde. Tout simplement en mettant des poulaillers dans les villes, des poulaillers géants, hein, bien sûr, qui ont été repensés pour la ville et pour nos modes de vie. Donc c'est des poulaillers collectifs géants dans lesquels on met des poules. Alors soit des poules qu'on sauve de l'abattoir, soit des poules de race qui sont issues de la biodiversité pour montrer qu'il n'y a pas que des poules rousses qu'on voit sur les emballages au supermarché. Et en fait, l'idée c'est on invite les habitants à déposer leurs déchets alimentaires dans des collecteurs, donc dans des poubelles adaptées aux biodéchets. Et nous, à partir de là, on va travailler avec des structures en insertion. Donc, des structures en insertion, ce sont des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui vont être encadrées par une équipe pédagogique et qui va les encadrer pour leur apprendre des nouveaux métiers. Pour leur apprendre des métiers. Alors, bien souvent, on en trouve pour tout ce qui est nettoyage, société de nettoyage, pour entretien des espaces verts, etc. Donc, nous, on travaille avec ce type de structure qui vont aller collecter les déchets des habitants qu'ils ont déposés, les trier. Donc, il y a des choses qu'on peut donner aux poules, il y a des choses qu'on peut mettre dans le composteur. Et ensuite, ils vont nettoyer le poulailler aussi, hein, s'occuper de l'entretien et collecter les œufs. Et ensuite, l'idée, c'est que les œufs soient mis dans les commerces de proximité gratuitement pour que les gens qui ont fait l'effort de déposer leurs déchets puissent récupérer des œufs gratuits. L'idée, c'est que avec vos déchets, on produit des œufs, donc vos déchets contre des œufs, tout simplement. Et on met ces poulaillers au centre de la ville, donc au cœur des villes, on ramène l'animal en ville et l'idée, c'est que les gens, quand ils vont au cocotarium, ils se croisent, ils se parlent. La poule, c'est quand même assez ludique. On a tous une histoire avec les poules. Enfin, c'est un peu la Madeleine de Proust de chacun, une petite histoire avec nos grands-parents, etc. Et en fait, les gens se racontent leurs anecdotes en se retrouvant au cocotarium. Et puis en même temps, bah, ils sont sensibilisés petit à petit sur ce que les poules mangent, ce qu'elles ne mangent pas, ce qu'on peut composter, pas composter. Et c'est le premier pas un peu vers la transition énergétique, puisqu'une fois qu'on commence à se questionner sur ce qu'on peut donner aux poules, aux composteurs, etc., on commence à se questionner sur soi-même ce qu'on mange, et petit à petit sur comment on achète et comment on consomme, etc. Donc voilà, c'est une démarche de sensibilisation.
Ouais, c'est ça. En fait, toi, la fonction du cocotarium, il y en a plusieurs. Il y a cette fonction de création de liens sociaux, de rencontres, de points d'ancrage aussi, mais aussi il y a aussi c'est un moyen pour sensibiliser à la question de la valorisation des biodéchets et notamment aussi à quel point ça en fait ton biodéchet se transforme en œuf quelque part si on fait le raccourci.
Exactement.
Et donc j'imagine que ouais c'est devenu un outil. Enfin tu l'as conçu comme un outil en fait.
Ouais. C'est ça. En fait, c'est tout simple. Il y a la loi sur la transition énergétique qui va imposer à tous les particuliers d'ici 2025 de trier leurs biodéchets à la source. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Avec le cocotarium, on n'a pas la prétention de recycler tous les déchets. C'est pas le cas. Par contre, on est une des solutions et l'idée, c'est que les gens réagissent dans leur comportement et que petit à petit, ils fassent de mieux en mieux. Donc, effectivement, il y a une action de sensibilisation au tri des biodéchets.
Et là-dessus, comment est-ce que du coup ça fonctionne? Donc, vous travaillez avec les villes, j'imagine, mais je crois qu'il y a aussi les entreprises.
Ouais, on fonctionne beaucoup avec les collectivités pour tout ce qui est école primaire, ça peut être des lycées aussi, des maternelles. Et puis, on va travailler aussi avec les parcs urbains. On va s'installer aussi dans les parcs urbains. Donc, c'est beaucoup les collectivités. Et après, on a un deuxième volet qui sont les entreprises avec lesquelles on monte des projets aussi intéressants puisque, en fait, on va s'adapter aussi aux clients. Par exemple, on est installé sur le siège de Carrefour. Et en fait, sur le siège de Carrefour à Massy, il y a 4000 collaborateurs. Ouais. Et en fait, ils ont décidé de mettre en place un système d'économie circulaire aussi pour respecter l'idée du projet. Et l'idée, c'est que les collaborateurs, ils n'ont pas forcément beaucoup de poules, donc il n'y a pas assez de poules pour le nombre de collaborateurs. Mais par contre, ils proposent à leurs collaborateurs de donner un peu d'argent en échange de faire un don, en fait, en échange des œufs. Et ces dons sont redistribués à une association locale et environnementale qui se trouve près de chez eux, en fait, près de leur siège. Donc il y a une redistribution comme ça de ces dons. Donc du coup il y a vraiment cette idée d'économie circulaire où les collaborateurs de Carrefour sont sensibilisés, ils ont ce qu'on appelle des pauses cocottes en fait. Ouais. Pendant le déjeuner, ils vont pouvoir voir les cocottes, ils vont pouvoir passer un petit temps avec elles, voir si tout va bien, les caresser, leur donner à manger, etc. Et puis, en faisant tout ça et en contribuant financièrement à l'achat des œufs, eh bien, en même temps, ils récompensent aussi d'autres actions à impact environnemental. Donc voilà, c'est circuit vertueux.
Il y a plein de questions qui me viennent. C'est passionnant, j'ai envie de poser plein de questions. C'est difficile de faire le choix. Mais il y en a une qui me vient. La première, c'est, j'imagine que oui, comment ça se passe quand on amène un poulailler au milieu du siège de Carrefour à Massy?
Alors, ça fait rire. Non, en même temps, moi, je fais ce métier pour donner le sourire aux gens et c'est d'ailleurs dans nos brochures on communique vachement là-dessus, c'est pour tous ceux qui aiment les œufs et les sourires c'est adressé à vous. Donc ça fait rire forcément et ça on y tient aussi parce que ça fait partie un peu de cette légèreté autour de l'environnement où c'est un sujet quand même assez grave et y mettre un peu de la légèreté, c'est aussi une manière de pouvoir l'approcher de manière plus facile. Ouais. Donc c'est important pour nous. Donc voilà, ça fait rire dans un premier temps. Après les gens s'y intéresse autrement, on voit ça de manière plus 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 judicieuses. Enfin voilà, ils se disent bah oui, effectivement, bah maintenant je vais pouvoir déposer mes déchets, c'est quand même super cool. Ma poubelle va pouvoir être beaucoup plus légère. En plus, je vais pas avoir une poubelle sale parce que dès l'instant où on enlève les déchets organiques de sa poubelle, on a une poubelle sèche, donc une poubelle qui dure plus longtemps. En plus, on brûle pas des déchets alimentaires parce que quand on commence à comprendre et à s'intéresser au circuit de nos ordures ménagères aujourd'hui, tout est incinéré, sauf que on incinère des biodéchets. Des biodéchets, c'est composé à 80% d'eau. Donc en fait, on
brûle. C'est 80 ou 90 ?
En fait, ça dépend parce que tu peux mettre aussi des déchets carbonés, des déchets, des feuilles, etc. Enfin, des branches d'arbres, ce genre de choses. Mmh. Si on intègre tous les biodéchets, il y a une majorité en général d'épluchures de légumes, etc. Donc ça, c'est 90% d'eau. Ouais. Mais tu as aussi une petite partie parfois de des petites plantes, tout ça. Voilà. Et même, tu peux mettre un peu de carton. Oh, là, il n'y a pas d'eau. Donc, voilà. Mais oui, on n'est pas loin de ce pourcentage-là. Et du coup, c'est quand même dommage de brûler de l'eau. Ça, c'est plus difficile à apprendre, déjà, techniquement. Ben voilà, il y a quand même un non-sens. Et voilà, l'avantage, c'est qu'il y a un, c'est valorisé, puisqu'en fait, les poules vont manger ces déchets. Deux, elles vont produire deux choses, des œufs, mais aussi des déjections. Et les déjections, ça fait quoi ? Bah, c'est des engrais, en fait. C'est des engrais qui sont extrêmement riches et prisés des agriculteurs en général, parce que c'est riche en azote. Et du coup, c'est super, super pour fertiliser les sols. Donc, voilà, il y a vraiment des vertus à ça. Et puis, du coup, bah oui, le bénéfice, c'est les œufs, c'est on va pouvoir faire son potager, exploiter ça pour, enfin, récupérer ça pour l'exploitation de son potager, etc. Donc, il y a que du bonus au final.
Et là-dessus, d'ailleurs, est-ce que vous intégrez aussi dans le modèle la valorisation des déjections des poules
Oui. Ouais. Oui, parce qu'en fait, nous, dès l'instant, le poulailler, c'est la première démarche, c'est le premier pas. Et une fois qu'on a installé le poulailler, on travaille avec d'autres entreprises aussi, qu'on propose, par exemple, des bacs potagers, des composteurs. On va compléter vraiment l'histoire, parce qu'en fait, une fois qu'on a ces denrées, donc ces engrais, en général, nous, les poules, on va pas tout leur donner. Il y a des choses qu'on va composter. Et donc, du coup, cette partie compostée, on va pouvoir la récupérer au bon moment. Ça va être une terre enrichie qu'on va pouvoir utiliser pour ces bacs potagers. Donc, le fait d'utiliser les engrais et le compost dans les bacs potagers, on peut faire de la culture potagère avec une terre riche et propre. Et ensuite, les végétaux vont pousser. Quand il y a, je ne sais pas si on fait de la culture potagère, s'il y a des petites cerises abîmées, des tomates cerises abîmées ou n'importe quoi, pour les donner aux poules. Ah. Donc voilà, il y a vraiment un circuit qui se crée où tout se répond et tout se correspond. Enfin, tout de, il n'y a pas de déchets générés, du coup.
Et est-ce qu'autour de, enfin, je ne sais pas si ça faisait partie de la démarche initiale, mais moi, ce que tu dis, enfin, plus sur le côté production d'œufs, où j'imagine que par ricochet, il y a aussi une partie sensibilisation, peut-être à la cause animale et au fait que, bah, parce que, enfin, c'est ce que tu évoquais aussi au début sur le choix, voilà, des poules, où là, le fait d'avoir des œufs qui sont, tu vois, produits dans des conditions. Enfin voilà, dans des bonnes conditions, à partir de déchets, enfin en tout cas beaucoup de ressources et d'aliments pour les poules qui sont maîtrisés. Enfin, j'imagine par ricochet, il y a peut-être aussi cette la sensibilisation. Je sais pas si c'est à la cause animale, mais en tout cas, voilà, je sais d'où vient cet œuf et.
Pour moi, il y a effectivement ça. On essaie d'être cohérent de A à Z dans notre démarche, et c'est vrai que savoir ce qu'on mange, d'où vient ce qu'on mange. Nous, on va favoriser le local, la production locale un maximum. On va favoriser le fait de réintégrer l'animal en ville, parce que plus on réintègre l'animal en ville, plus on va ramener cette nature en ville qu'on a complètement exclue et qui fait que aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de jeunes populations n'ont jamais vu d'animaux, même une poule, ça leur paraît extraordinaire. Enfin, ça paraît complètement fou pour certains, mais c'est le cas, c'est une réalité. Et montrer aux enfants comment fonctionne la nature, c'est déjà leur donner les clés pour l'avenir, quoi, parce qu'en fait. Quand on regarde un peu à la loupe la nature, c'est extrêmement passionnant et fascinant. C'est pas pour rien que quand on parle de biomimétisme, par exemple, Il y a des procédés d'armement ou même d'évolution médicale ou autre qui sont inspirés de la nature. C'est une technologie incroyable qui se trouve déjà dans la nature et on peut que s'en inspirer. Donc montrer en fait aux jeunes générations que la nature est une vraie ressource, mais pas qu'une ressource parce qu'on voit, parce qu'elle rejette de l'oxygène, parce que ça crée un écosystème, c'est aussi une source d'inspiration pour nous créer demain. Enfin, ça va au-delà de simplement les ressources qu'elle nous apporte. Elle nous apporte du pétrole, elle nous apporte du gaz, elle nous apporte tout ça, certes, ok, mais elle a aussi, elle, une manière de fonctionner. Enfin, quand on regarde le corps humain et le fonctionnement de la digestion, par exemple, enfin, c'est ce qui me vient là, ce que j'aime bien manger, tout est imbriqué, chaque chose est à sa place, chaque élément dans le corps a une fonction qui va répondre à un élément précis, et la nature, elle est à grande échelle, elle fonctionne comme ça. Donc, quand on commence à regarder de près ce qu'il y a dans la nature, mais en fait, on a les clés pour énormément de choses, quoi. Donc c'est ça aussi, c'est s'intéresser à différents niveaux d'échelle à la nature, c'est prendre conscience en fait des différentes richesses qu'elle peut nous apporter, et encore on connaît pas tout, donc voilà, faut la préserver, il faut apprendre à la regarder, et faut être un peu humble par rapport à ça aussi, puisqu'on n'est pas grand chose.
Donc voilà, la poule, je trouve que l'intelligence de ce projet, c'est que c'est un point d'entrée simple. Et puis surtout, ce que je trouve assez génial, c'est que, tu vois, dans la ville, t'as quand même beaucoup la poule, c'est l'animal de la ferme, en fait.
Oui.
Et du coup, il y a tout de suite aussi ce côté périphérie, c'est pas nous, ça nous concerne pas. Mais là, ce que tu dis, c'est que la poule, elle est au cœur de plein de choses, quoi.
Exactement. Et c'est facile, c'est un animal accessible. Enfin, aujourd'hui, les gens ont des chats ou des chiens, ils savent très bien s'en occuper, il n'y a pas de souci. Et la poule, en fait, c'est pas une grande difficulté non plus. Enfin, tout le monde peut avoir une poule. C'est l'entretien dès l'instant où on a compris quels étaient ses besoins et qu'on est un minimum bienveillant et responsable. On peut tout à fait s'occuper de poules. Et cette proximité avec l'animal, en plus c'est un animal hyper sociable, ça se laisse caresser sans problème, c'est pas du tout agressif ni rien, ça rend vraiment les choses très faciles.
Et comment, parce que du coup moi, j'avais souvenir, je crois que le point d'entrée, il était surtout au début sur une cible plutôt particulière, puis après vous êtes allé sur plutôt du côté professionnel, si je me trompe pas. Enfin, j'entends par là l'installation de cocottes au sein des entreprises. Enfin, moi, je l'ai découvert après. Je crois qu'un des premiers projets, c'était dans une ville, non ?
Oui, oui, oui. Alors oui, effectivement, on s'adressait pas directement aux particuliers. Disons que c'est le destinataire final est effectivement le particulier, mais effectivement, on travaillait directement avec les collectivités qui, du coup, le mettaient sur un espace public accessible aux particuliers. Et aujourd'hui, on travaille toujours beaucoup avec les collectivités. C'est juste qu'on a ouvert davantage aux entreprises parce que ça fait partie des développements de l'entreprise, de notre entreprise à nous. Mais c'est aussi parce qu'il y a une vraie pertinence à se retrouver dans les entreprises. On répond à tout ce qui est politique RSE, le fait de retrouver du sens dans ce qu'on fait aujourd'hui, dans son travail. Il y a beaucoup de personnes qui, malheureusement, la vague des burn-out, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont des métiers passionnants, qui ont fait des longues études pour faire ce qu'ils font, etc. Et la façon dont ils exercent leur métier ne leur convient plus parce que ils voient pas forcément l'aboutissement de ce qu'ils font. Il y a pas forcément de concrétisation de ce qu'ils font toute la journée derrière un ordinateur. Et le fait de revenir à des choses palpables, de revenir à des choses très simples, comme tu dis, il y a un retour direct. Ils vont se mobiliser autour d'un projet où ils vont voir tout de suite le résultat. Ils voient concrètement, tous les jours, ils vont voir les poules, tous les jours, ils vont avoir des œufs, tous les jours, ils vont voir les déchets diminuer, et puis ils vont voir les poules évoluer dans le poulailler, ils vont voir socialement comment elles interagissent les unes aux autres. Donc ça, c'est un projet qui est palpable. Mm-hmm. Et c'est ça qui aussi est en contraste avec notre société aujourd'hui qui va de plus en plus vers le digital.
Bah ouais, et puis il y a un truc qui est assez frappant aussi, c'est qu'en fait, au-delà du fait que ce projet est palpable, c'est que là, si on parle de la du contexte installation d'un cocotarium au sein d'un siège social, c'est, je trouve que tu as aussi ce côté où on vient casser cette espèce de silo du « le travail, c'est le travail », et puis après, quand tu rentres chez toi, et en fait, aujourd'hui, on s'en rend compte,
oui,
même auprès des étudiants, quand on parle des sujets de bien commun, des sujets d'environnement, on a souvent du mal, en tant qu'étudiant, quand c'est dans le cadre d'un cours ou en tant que professionnel, à se remettre dans la peau d'un citoyen. Et en fait, là, ce que je trouve assez, assez intéressant aussi, c'est que finalement, avec le cocotarium, c'est le côté... Bah, votre lieu de travail sur lequel vous êtes la moitié du temps, c'est aussi un endroit où vous produisez les œufs que vous allez ramener chez vous. C'est un endroit où on se reconnecte, bah voilà, comme on dit, à des choses qui ne sont pas, bah, en fait, qui sont pas liées à votre au cadre et au silo du travail, quoi.
C'est une bah, nous on appelle ça la pause cocotte. C'est un peu une parenthèse dans ta journée. Où les obligations de résultats sont pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes enjeux, et pourtant c'est, il y a une vraie responsabilité parce que c'est un être vivant. Mais effectivement, tu sors de ton cadre et tu, enfin, c'est comme aller marcher, on parlait, on avait déjà parlé de ça. Enfin, ouais. Le fait de marcher, tu t'évades complètement et c'est un moment où tu peux solutionner des problèmes que tu as dans ta journée, dans ton travail, etc. C'est vraiment un moment où tu te ressentes sur toi. Et le fait d'être au contact de l'animal, ça procure aussi ce genre de choses. Alors, maintenant, on a vraiment des études scientifiques qui prouvent que le contact avec l'animal, le vivant, ça permet aux gens de se sentir mieux. Ça crée une espèce d'apaisement et ça rend les gens plus sereins. Et du coup, le fait de créer une coupure comme ça quand ils retournent au boulot, ils ont le cerveau s'est régénéré, ils sont plus efficaces dans leur travail aussi. Donc ça participe aussi à tout ça, effectivement. Et nous, ça fait partie de nos objectifs développement durable, donc les ODD sur lesquels on travaille, qui sont hyper importants pour nous, c'est de mesurer notre impact, mais aussi mesurer notre impact sur le bien-être. Parce qu'en fait, on fait ça, bien sûr, pour la nature, mais en soi, la nature, elle se régénérera toute seule sans nous, quoi. Mais c'est aussi pour nous qu'on le fait, avant tout, quoi, pour pouvoir survivre dans des conditions meilleures.
Ouais, pour pouvoir être sûr que si elle se régénère, on en fait partie, quoi.
Ah ouais, c'est ça. C'est que, clairement, la nature, elle se régénérera quoi qu'il arrive, avec ou sans nous, même si on la détruit. On voit Tchernobyl, on voit tout ça. Elle arrive à renaître de ses cendres. Enfin, elle a cette capacité-là, pas nous. Nous, on n'est pas capables, mais elle, oui. Donc après, est-ce que dans cette régénération, on sera effectivement capable de survivre, nous, quoi? Et ça, c'est moins sûr. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà anticiper et prendre soin de ce qu'on a, quoi. La première chance d'avoir ce qu'on a, quoi. Après, on parle des trucs métaphilosophiques, mais il y a tellement... Non, mais c'est vrai, quand on regarde une image, il y avait tellement peu de chances pour qu'on soit là.
Ouais.
Enfin, c'est pareil, complètement démentiel. Enfin, c'était utopiste presque comme piste.
Ouais, c'est clair.
Et on est quand même là, donc maintenant qu'on a ça, faut pas déconner, quoi.
Une petite part. On vous pose là, on voit comment ça se passe. Si tout se passe bien, vous avez le droit de rester.
C'est ça.
Si ça se passe pas bien, on vous enlève du plateau de jeu. Bah là, a priori, on est bien parti pour pour se faire exclure, mais.
Ouais, c'est éjectable.
Et en question beaucoup plus terre à terre, mais je me posais la question. Du coup, qu'est-ce que ça mange une poule? Tu dis, elle mange pas tout dans les biodéchets.
Ouais, alors moi je dis tout le temps, et c'est facile à comprendre. Enfin, je pense que c'est entendable par tous. Nous, tout ce qu'on est capable de manger, elles sont capables aussi de le manger. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, on mange plus les épluchures de légumes. Pour la simple et bonne raison qu'on a, avec notre façon de produire, avec l'industrie agroalimentaire, on a arrêté de manger les épluchures de légumes parce que c'était là où il y avait tous les pesticides. Mais en soi, c'est là où il y a le plus de vitamines, c'est la partie la plus nutritive. Donc en fait, clairement, quand on donne nos biodéchets aux poules, on donne le meilleur à nos poules. Nous, on garde le reste, quoi. C'est un non-sens, mais c'est le cas. Donc en fait, les poules mangent les déchets alimentaires, donc tout ce qui est épluchures de légumes, que nous aussi, on serait capable de manger. Après, tout ce que nous, on n'est pas capable de manger cru, elles non plus. Par exemple, nous, on mange pas de pommes de terre crues parce que c'est toxique. Bah, elles non plus. Donc, il y a des petites astuces comme ça à savoir. On va pas manger des peaux d'agrumes. Bah, elles non plus, elles vont pas manger des peaux d'agrumes. Donc, c'est des astuces comme ça. Après, elles mangent des insectes. Nous, on n'en mange pas encore, mais on sait pas si ça va. Enfin, il y a quand même de sérieuses pistes pour qu'on en mange un jour. Donc, donc potentiellement, on en mange. Enfin, on serait capable aussi d'en manger. Et là où c'est un peu particulier, où là, je pense qu'on n'est pas prêt tout de suite d'en manger, c'est tout ce qui est coquilles d'œufs et coquilles d'huîtres. Où là, elle, c'est très bon pour elle, pour la simple et bonne raison que c'est riche en calcium et c'est ce qui permet de créer. C'est ce qui leur permet d'avoir des coquilles, solides en fait. Ça rigidifie la coque des coquilles.
En fait, la coque des coquilles qu'elles produisent leur permet, en fait, c'est vrai, c'est l'économie circulaire de la poule, quoi.
Aussi. Mais alors après, il faut faire attention à pas leur donner. Enfin bon, je fais de la communication en avance, mais si on donne des coquilles d'œufs à ces poules, faut pas leur donner en entier parce que sinon elles vont s'habituer à manger leurs propres œufs et c'est pas ce qu'on souhaite.
Ah ouais.
Donc il faut vraiment les concasser, il faut faire attention à ça. Donc quand je dis ça, à chaque fois, je dis attention. Faut pas qu'elles se rendent compte que c'est ça. Faut les bloquer un petit peu, quoi.
Ouais, d'accord. Et tout ce qui est trognon, pépins et tout.
Ouais, elles mangent ça aussi. Exactement. C'est juste qu'on est un peu difficile, hein. Mais.
Ouais, effectivement.
On fait un peu nos mijaurées, mais en fait, on pourrait le manger aussi.
Et du coup, quel est le modèle aujourd'hui, vous, de Cocotarium?
Alors aujourd'hui, c'est une très bonne question parce qu'on est en train de basculer justement. Aujourd'hui, nous, on est sur de l'achat-revente, enfin pas de l'achat-revente, de la fabrication-revente, enfin sauf pour les consommables qu'on achète. Mais donc on vend nos produits et services, on fait de la vente de produits et services. Et en fait, on installe, donc on fabrique nos propres poulaillers. Donc c'est une fabrication française, c'est du bois issu des forêts françaises, non traité, etc. Donc on fournit, on installe, on livre les céréales 3 fois par an. On fournit les poules, on fournit tout. En fait, on fournit du clé en main, on fait la formation, on livre tout ce qui est système de planning avec le guide pédagogique, le guide d'entretien, etc. Enfin voilà, l'idée, c'est que quand on s'installe quelque part, on fournit tous les éléments nécessaires à la gestion d'un poulailler pour que la personne n'ait rien à gérer dans un premier temps. Et après, petit à petit, l'idée, c'est de l'emmener vers une autonomie en lui donnant tous les outils nécessaires pour qu'elle soit autonome sur la gestion du poulailler.
Et du coup, vous, là-dedans... tu inclus aussi tout ce qui va être logistique, parce que je crois que vous avez aussi tu inclus aussi tout ce qui est logistique, à savoir ce que tu évoquais sur le côté collecte des biodéchets, tri.
Exactement.
Ok.
Ouais, ça on le propose, ça c'est libre au client de le choisir ou pas, mais effectivement on travaille en partenariat avec des structures d'insertion qui peuvent effectuer toute la partie logistique, collecte des déchets, tri, donner à manger aux poules et déposer les œufs en point relais, dans les commerces de proximité, etc. Donc ça, c'est une gestion qui peut être totalement prise en charge par la structure d'insertion.
Ouais, donc toi, tu mets à disposition la solution un peu clé en main de base avec le poulailler. Enfin, ouais, poulailler, hein.
Ouais, c'est ça. C'est un package, en fait, où on propose... c'est un package à tiroir, en fait.
Ouais,
on propose la solution entièrement clé en main où le client, s'il n'a jamais côtoyé de poule de sa vie ni rien, il n'est pas en panique parce qu'il y a une vraie prise en charge et accompagnement de A à Z sur le projet. Et puis, si jamais la personne est un peu plus à l'aise ou en forme aussi, hein, ces personnes.
Ouais.
On les forme quoi qu'il arrive, ça c'est de base. Mais si la personne elle est un peu plus à l'aise, s'il y a des gens dans le groupe qui sentent de se lancer, on a des clients qui se sont lancés comme ça. Hein. Par exemple, à Carrefour, on les a formés et tout, on a pris le temps avec eux, on leur a donné tous les outils et tout, mais ils sont complètement autonomes sur leur gestion. Et ça se passe très bien.
Et qui est-ce qui est formé dans ces cas-là? C'est des équipes internes?
Ouais, c'est des équipes internes. Ils ont voulu. Je trouve ça super parce que ils sont directement impliqués. Donc ils ont impliqué eux. Ils ont une cantine qui est gérée par Elior. Donc ils ont mobilisé les personnes qui travaillent pour le groupe Elior, qui sont directement sur place, et des équipes de chez Carrefour. Et en fait, les deux interagissent. Et il y a aussi une équipe paysage. Donc, ils ont mobilisé 3 groupes, donc Elior, l'équipe paysage et Carrefour. Et ils interagissent entre eux pour s'occuper des poules. Donc, ils vont récupérer les déchets auprès de la cantine. Les personnels de Carrefour vont déposer les déchets. Les gens du paysage vont récupérer ces déchets, les trier, nourrir les poules. Et puis, les gens de Carrefour récupèrent les œufs et les mettent à disposition. Enfin, voilà. C'est une collaboration.
Et je crois qu'en plus de ça, vous avez aussi après des animations, vous avez une app, des choses comme ça.
Ouais. Alors, on a des animations sur tout ce qui est zéro déchet. Zéro déchet, donc comment est-ce qu'on fait pour vivre en étant presque zéro déchet à la maison, dans la salle de bain, dans la chambre, dans le salon, dans la cuisine, mais aussi au bureau, comment ça se passe puisque vraiment nous, c'est engagé la transition énergétique sur tout le volet gestion des déchets, donc c'est aussi soi-même personnellement comment on fait pour réduire ces emballages qui est en plus assez étrange parce qu'on va au supermarché, on a achète des produits dont on achète l'emballage qu'on va jeter quand on rentre chez soi. Mmh. Enfin, ça y a aussi un non-sens et qu'on va ensuite, en plus, on va brûler et qui va créer du CO2. Enfin, voilà, et puis, on a déjà produit ces produits qui polluaient déjà à la base, mais bon, bref, des fois, on n'a pas toujours le choix. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir montrer aux gens quelles solutions sont à disposition pour eux. Et on a aussi des animations sur la biodiversité, montrer un petit peu tout ce qu'on a autour de soi dans notre environnement. Typiquement, on a des bois. Enfin, par exemple, on va parler de la cueillette sauvage. On a tous des sous-bois, on a tous des plantes qui poussent un bout de béton, sur un trottoir, un truc comme ça. Et l'idée, c'est de montrer qu'en fait, la plupart des plantes sont comestibles et qu'on pourrait se nourrir potentiellement de ces plantes-là. Mmh. Elles sont beaucoup plus nutritives que ce qu'on trouve au supermarché aujourd'hui. Elles ont des qualités nutritives beaucoup plus importantes.
Ouais.
Que nous, nos produits se sont appauvris avec la surexploitation, enfin la culture intensive, la monoculture, ça appauvrit vraiment ce qu'on mange aujourd'hui. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir aussi montrer un peu ce qui se passe autour de soi, est-ce que les vertus un peu des choses qui poussent toutes seules, et montrer bah ouais, à très très longtemps, on vivait comme ça en fait.
Et ça fait partie de tes projets d'aller installer un cocotarium sur une plateforme pétrolière pour les sensibiliser à comment préserver la biodiversité après démantèlement.
Le lien entre les deux, je vais pas forcer le lien entre les deux. Je pense que le lien il est plus sur vraiment montrer en fait la richesse de la biodiversité en général et on est souvent surpris par la nature et du coup c'est un peu ça qui m'intéresse, c'est de montrer qu'en fait, il y a des choses sur lesquelles on marche tous les jours et on voit pas à quel point il se passe des trucs complètement hallucinants. Et non, il n'y a pas de lien direct entre les poules et les plateformes de poules.
Ouais, c'est
imagine perdu au milieu de la mer.
Ouais, je crois que c'est pousser la limite.
Ouais, non, je ferai pas ça, je pense.
Et toi d'ailleurs, enfin sur ce rapport à la nature, on a peut-être plus pour y revenir sur ton expérience d'entrepreneur en fait. Enfin voilà, combien même ça faisait partie un peu des différents projets sur lesquels tu travaillais avant. Mais j'imagine que toi, cette expérience, elle t'a aussi appris à interroger, t'inspirer, appréhender ce qui t'entoure, la nature, de manière différente. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses dans la manière dont tu interagis avec la nature?
Oui. Moi, je me considère pas comme quelqu'un d'écolo.
Ouais.
Alors que je fais plein d'efforts, etc. Mais j'ai un peu de mal. Je fais toujours attention. Enfin, j'essaie de faire attention, en tout cas, aux mots que j'emploie, parce que je trouve que aujourd'hui, l'écologie, c'est un parti politique. Et moi, je ne me sens pas forcément vouloir faire de la politique, mais juste m'intéresser à la nature. Et en fait, ce qui me fascine, c'est que moi, je suis tombée dedans vraiment par hasard. C'est juste que j'ai grandi un peu à la campagne et que j'ai vécu à Paris et que je n'ai pas compris pourquoi j'avais ce besoin de marcher 3 heures tous les week-ends dans la nature. C'était vital. J'en avais vraiment besoin. Sinon, je pouvais pas commencer ma semaine, mais je comprenais pas d'où ça venait ce truc. Je me dis, mais c'est bizarre, j'ai besoin de me retrouver en forêt à chaque fois. J'avais pas l'impression d'aimer ça plus que ça, mais j'avais besoin de faire ça.
Ouais.
Et du coup, bah ouais, j'ai compris qu'en fait, bah oui, j'avais besoin de nature, hein, fallait pas aller chercher plus loin. Et en fait, c'est comme ça, quoi. Petit à petit, on s'intéresse à son environnement et à force de creuser, à chaque fois, on est de plus en plus stupéfait par tout ce qu'il y a. Enfin, je sais pas si t'as vu, depuis le début, je peux pas m'accrocher sur un sujet, je pars sur un autre. Ça va dans tous les sens, mon cerveau, il va partout. Mais parce qu'en fait, quand on commence à s'intéresser au sujet de la nature, il y a tellement de choses passionnantes et fascinantes que c'est difficile de s'arrêter. Et en fait, on en apprend tout le temps en permanence. Enfin, On va apprendre l'existence d'un insecte qui va être capable de faire des trucs complètement fous, de réguler un écosystème d'agriculture, etc. Et c'est ça. Je me dis, ah bon, lui tout seul, il fait ça, c'est fou. Et c'est con. Enfin, c'est moi pour moi, c'est pour ça que je trouve ça aussi fascinant. En fait, c'est plus lié à une fascination, je pense. Enfin, un besoin à la base, c'est sûr, mais petit à petit, il y a une fascination aussi qui est venu et qui fait que tous les sujets finissent par m'intéresser. Et d'ailleurs, c'est le danger, c'est de pas se perdre, quoi, parce que il y a plein de sujets à traiter, quoi.
Après, là où tu as été maligne, disons, c'est, enfin, on y revient, hein, mais là, le fait d'être sur quelque chose de simple, c'est que je pense que ça te permet aussi à un moment de remettre les pieds sur terre, parce qu'en fait, sur les sujets de biomimétisme, on peut vite en fait partir très 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 loin, parce que
Ouais.
déjà, c'est une espèce de, on ouvre une encyclopédie
C'est clair.
et tu as envie de tourner toutes les pages et tu as envie de tout tester, de tout expérimenter.
Complètement.
Et en fait, là, ce qui est assez chouette, enfin, je pense que ça tient aussi dans l'animal que t'as choisi. C'est pas du tout pour dévaloriser la poule, mais c'est-à-dire que, voilà, comme tu dis, c'est un animal assez social,
Assez commun, en fait.
voilà, assez commun. Je veux dire, c'est pas forcément la libellule ou la termite, tu vois.
Ouais.
Et je pense que du coup, ce qui peut-être te permet aussi à un moment disons, de pas te perdre dans cette immense encyclopédie de la nature, et dans toi ton goût pour ces sujets, c'est ce projet qui est assez simple, qui est concret et qui touche en fait finalement qui touche à des choses, le lien social, l'humain, les biodéchets, les œufs, qui font partie du quotidien, quoi.
Complètement, et c'est en fait il y a vraiment un truc, c'est très facile de divaguer, c'est très facile, enfin, c'est des sujets qui me passionnent, mais en fait il y a une réalité qui est là, et la réalité c'est qu'aujourd'hui si on veut être performant, parce que c'est vraiment de la performance, en proposant quelque chose d'impactant et qui soit durable, qui se pérennise, on est obligé de prendre en compte trois choses. Effectivement, il y a le côté environnemental et social, mais il y a aussi le côté économique. Et en fait, on est obligé d'intégrer la donnée économique, parce que si on ne l'intègre pas dès la base, bah, ce qu'on fera ne pourra pas durer. Et ce qu'on fera n'aura pas de crédibilité dans le temps, puisque ça va s'effondrer très vite, en fait. Et l'idée, c'est pas de faire un truc one shot. L'idée, c'est de pérenniser une action. Et c'est de pouvoir aussi montrer que c'est pas parce qu'on fait quelque chose d'environnemental et social qu'on doit être forcément une association. Les associations ont pallié pendant très longtemps au manque qui est dans notre système, et c'est très bien. Mais aujourd'hui, on a les moyens aussi de pouvoir créer une économie, une réelle économie autour des sujets environnementaux et sociaux. Et il n'y a pas à rougir de créer une économie autour de ça. C'est comme ça que ça devrait fonctionner, pour que ce soit viable dans le temps, pour qu'on arrête de voir l'écologie comme un sujet de hippie, quoi. Enfin, c'est vraiment sérieux, en fait. Et ça a vraiment une utilité dans le temps, et ça a vraiment une pertinence économique aussi. Et d'ailleurs, dans l'écologie, il y a éco, donc c'est OK, l'économie de la nature, mais il y a aussi l'économie de financière, quoi. Et quand on voit les fonctionnements en économie circulaire, où on ne réinvente rien, on réutilise en permanence, bah, économiquement, oui, c'est pertinent. On n'a pas besoin de reproduire une nouvelle chose, on a déjà tout. Donc, moi, c'est hyper important pour moi, quand j'ai créé l'entreprise, de me dire que OK, je veux répondre aux questions environnementales et sociales, mais je veux aussi être rentable économiquement, et je veux aussi prouver que on peut avoir une démarche, enfin, une démarche environnementale et sociale, tout en étant pertinent
Fiable, quoi.
et tout en étant ancré dans une réalité économique. Exactement.
Ah, mais c'est exactement nous notre approche, et c'est vrai que très souvent, enfin, chez Circulab, la première question, c'est vous êtes une association? Et parce que les sujets d'intérêt, enfin voilà, d'intérêt général, ou en tout cas voilà, mais même sociaux, hein, il y a enfin, comme tu dis, c'est pallier au manque, aux maladresses ou aux actions et inactions des entreprises viables qui font l'économie, on y revient, hein. Enfin, de manière imagère, c'est un petit peu, on en revient à la périphérie, c'est-à-dire que au cœur de de la cité, t'as les entreprises, et puis dans la périphérie, t'as les associations qui viennent gérer tout ce qui est mis de côté.
Exactement.
Écoute, ravie qu'on puisse remettre le poulailler au cœur de la ville, et puis surtout autour de ça, une économie viable, quoi. Et peut-être pour conclure, donc Cocotarium est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, et une entreprise qui a déjà aussi des impacts aussi bien sociaux qu'environnementaux. Est-ce que tu me disais en plus tout à l'heure que vous étiez dans une démarche de, je sais pas si c'est quantitatif, mais en tout cas de pouvoir partager ces impacts-là. Est-ce que tu as quelques détails, que ce soit des chiffres ou sur les impacts que vous avez?
Alors, on a 13 sites Cocotarium installés en Île-de-France et en Normandie à l'heure actuelle, ce qui représente à peu près 8 tonnes de déchets valorisés par an et environ une production de 10 000 œufs par an également, distribués en circuit court du coup et produits localement.
Super. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot de la fin que tu souhaites partager, que ce soit un conseil, une phrase, une citation, ce que tu veux, mais pour conclure cet épisode.
Oui, déjà merci Justine
merci
à toi. Pour cette écoute et pour cet échange hyper intéressant. J'ai grandi avec une phrase qui m'a été transmise par mes parents, qui est qu'il ne faut pas vouloir le meilleur de chaque chose, mais de chaque chose en faire le meilleur. Donc en fait, l'idée, c'est pas de vouloir peut-être le dernier téléphone ou le dernier vélo à la mode ou la dernière voiture, etc. Mais plutôt de qu'est-ce qu'on a et dans ce qu'on a, essayer de le rendre le plus attractif possible, le plus plaisant possible, le plus agréable possible. Et en fait, je pense que c'est pour ça que j'avais choisi le métier d'architecte d'intérieur et designer, c'est qu'on a la sensation de pouvoir embellir de pouvoir embellir l'espace et de pouvoir embellir la vie des gens avec des solutions simples et quand on est astucieux en plus, c'est encore mieux. Et je pense que du coup, ça rejoint aussi ce que j'essaye et ce qu'on essaye de faire tous avec nos projets d'économie circulaire.
Super. Et ça fait sens aussi avec l'ouverture de ce podcast sur la place que tu redonnes, à l'urbanisme, à l'architecture, parce que le poulailler en fait partie.
Complètement.
Et comment est-ce que tu boucles avec la place que doit avoir et qu'a aujourd'hui l'architecture dans la manière dont ça va façonner nos vies, mais aussi dans la manière dont ça traduit une évolution de notre société où on a besoin de plus en plus de revenir à la nature et de reconstruire du lien.
Complètement.
Donc, bravo pour ça. Et puis, je vais partager du coup les informations sur le Cocotarium dans l'article qui suivra le podcast. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés jusque maintenant. N'hésitez pas à aller découvrir ce projet, à installer des Cocotariums si vous êtes maire, si vous êtes installé dans une entreprise. Et puis, ça vous apportera plein de bonnes choses, comme vous l'avez compris. Et je vous dis à toutes et à tous, à bientôt et à très bientôt Aurélie.
Merci Justine.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.